Bonjour Sarah, merci d'être venue. Donc, moi, ce que je voulais, c'était qu'on te présente aux gens qui lisent le blog de Florejane. Je te laisse la parole.
Merci beaucoup de me recevoir déjà dans tes locaux, qui sont super chouettes. Alors j'adore beaucoup justement les ateliers créatifs, donc je m'éclate. On a parlé tricot, on a parlé bricolage de plein de trucs d'ailleurs, même de couronne de Noël. Donc c'est vraiment chouette. En tout cas, je vous invite à venir aux ateliers pour découvrir cet endroit avec une magnifique fresque à l'arrière qui est vraiment très très chouette. Donc du coup, pour me présenter rapidement, je suis Sarah Kiliek, j'ai créé le podcast Parentalité et Adolescence dans le but d'aider les parents d'ados à mieux comprendre leurs jeunes et à trouver des solutions aux problématiques du quotidien. Et donc ça fait 3 ans et demi maintenant que le podcast existe. Donc voilà, je vais pouvoir un petit peu en parler avec toi.
Alors, première question, c'est quoi qui t'a amené à choisir la parentalité?
Très bonne question, qu'on me pose régulièrement finalement depuis pas très longtemps. Alors moi je suis pas maman, j'ai 33 ans, donc j'ai vraiment pas créé ce podcast pour parler en tout cas de ma vie, mais plutôt dans le but d'aider les parents d'ados. Et c'est arrivé tout simplement parce que je suis partie sur la voie entrepreneuriale directement à la fin de mes études. Et tous mes projets ont toujours eu pour cible les parents et les ados et améliorer la communication entre les deux. Donc, en fait, chemin faisant, j'ai développé plusieurs projets qui étaient à la base des applications. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça serait chouette de créer quelque chose autour, enfin qui gravite autour, mais qui n'est pas forcément lié à mon projet. Et au bout d'un moment, je pense que les morceaux du puzzle se sont mis en place. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un podcast que je dois faire pour aider les parents d'ados et leur donner l'information le plus facilement possible. Donc pendant le confinement, je me suis beaucoup amusée et j'ai regardé tout plein de tutos sur comment on faisait un podcast. Et puis petit à petit, du coup, j'ai pu commencer à lancer le podcast comme ça.
Donc, si je comprends bien, c'est un podcast qui est relativement récent, entre guillemets.
Alors, il a 3 ans et demi. Donc, si on part du principe que 80% des podcasts en France n'atteignent pas les 10 épisodes, ça va. On est plutôt pas mal. Là, je crois qu'on est au 170e épisode. Donc, j'ai largement dépassé les 10 épisodes, en tout cas, ça c'est sûr.
Alors, tu fais des épisodes tous les combien?
C'est un épisode par semaine. Et du coup, l'adolescence, c'est un vaste sujet. Donc, du coup, j'avais eu envie d'organiser un petit peu tout ça en proposant de choisir un sujet qu'on traitera sous 4 angles différents. Donc, en fait, par exemple, je vais choisir l'anorexie et je vais aller interviewer un pédopsychiatre, je vais aller interviewer une nutritionniste. Donc, en fait, il y a 2 épisodes plutôt tournés expertise. Un épisode témoignage, donc là ça peut être soit un parent d'ado, soit un ancien ado, c'est-à-dire toute personne qui n'est plus dans l'adolescence et qui va raconter un moment de sa vie, mais avec du recul, parce que nous on veut des solutions, pas des problèmes, parce que oui, l'adolescence peut bien se passer. Et le dernier épisode du mois, ça va être un épisode de mise en avant, soit d'une association, soit d'un entrepreneur qui propose un bien ou un service en lien avec la thématique du mois. Et comme ça, pendant un mois, on a un fil rouge si les personnes l'écoutent dans le sens où je les publie. Mais bien évidemment, c'est un podcast, donc les gens vont dans le sens qu'ils veulent.
Et les sujets, tu les prépares, tu as par exemple toutes tes thématiques pour jusqu'en juin 2024?
Alors, ça serait beau. Cette année, oui, je l'ai fait. J'avais préparé tous mes sujets pour l'année. C'est plutôt chouette parce que ça te donne un peu une carte de où tu vas, hein, une direction. Je suis pas à l'abri, moi, de tout envoyer valdinguer parce que quand je rencontre quelqu'un, quand je me dis ah, mais là, ça serait chouette, ça, j'ai pas utilisé ou j'ai pas traité tel sujet. Donc, finalement, on pourrait le faire. Et donc, des fois, je peux un peu changer, en tout cas, le planning que j'avais prévu. Mais là, va falloir du coup que je m'y mette pour l'année 2024 parce que du coup, je crois que j'ai que le sujet de janvier et février, je pense. Et voilà. Mais en tout cas, pour l'année 2023, oui, c'était organisé.
Et alors, comme tu disais tout à l'heure, vu la multiplicité des sujets qu'on peut aborder, comment tu sélectionnes? Tu sélectionnes pour coller à l'actualité ou tu sélectionnes plutôt par coup de cœur parce que tu as rencontré un intervenant qui pourrait être génial? C'est quoi ta sé Comment tu fais ta sélection?
Ok, très bonne question encore une fois. Du coup, comment je sélectionne les sujets? Bon, alors déjà, c'est que moi, je me suis fait une liste non exhaustive de sujets à traiter sur l'adolescence, vu que c'est une thématique que je connais assez bien depuis plusieurs années. Je manque pas du tout d'idées de sujets qu'on peut traiter sur l'adolescence. En revanche, je fais aussi une partie demande auprès des auditeurs. En fait, je demande à la communauté tout simplement ce qu'ils ont envie d'avoir comme thématique, les problématiques qu'ils rencontrent peut-être à un moment T. L'actualité, pas tout le temps. Pas vraiment. Je vais plutôt peut-être en parler sur les réseaux, mais pas forcément au niveau du podcast. Donc ça va être plutôt, je suis un peu ma ligne édito, je suis un petit peu mes idées de sujet, et puis en fonction des rencontres et des envies des auditeurs, et ben du coup je modifie un peu le plan, quoi.
Et est-ce qu'en complément du podcast, tu as un blog où tu retranscris tes interviews?
Ah, c'est encore une très bonne question. Alors, non. J'ai pas du tout eu envie de faire un blog. Alors c'est vrai qu'il y a quelques podcasteurs qui font ça pour chaque épisode, d'écrire un article, d'approfondir certains sujets, tout ça. Vu que je publie un épisode par semaine, j'ai pas du tout eu envie de me lancer dans ce côté rédaction. En revanche, ce que j'ai vraiment envie de faire incessamment sous peu, ça va être un petit peu de restructurer le site pour justement organiser un petit peu les sujets par capsule. Parce que bah, aujourd'hui, en gros, si on veut retrouver un sujet d'il y a 2 ans, eh ben, on est obligé de scroller tout simplement sur Deezer ou Apple Podcast ou peu importe sa plateforme d'écoute. Et c'est pas forcément quelque chose que les gens vont faire. Donc souvent, ils m'écrivent en me demandant du coup, est-ce que vous avez traité tel sujet? Et je suis la seule personne à pouvoir retrouver exactement où est ce sujet et à lui envoyer. Sauf si vraiment on prend le temps d'aller scroller et de trouver le sujet. Donc en fait, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est sur le site vraiment classer les épisodes par sujet, pour que ce soit plus simple pour les gens déjà d'aller les récupérer, et dans un deuxième temps de justement pouvoir me dire, ben, ok, là j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait aborder un sujet qu'on a déjà abordé sur le podcast, mais d'une façon différente, et dans ce cas-là, agrémenter une capsule déjà existante. Et dans ce cas-là, voilà, de se dire qu'on continue toujours à construire la structure du podcast, mais on peut continuer de l'agrémenter au fil de l'eau et des rencontres surtout.
Et le podcast, tu l'as fait connaître comment?
Ah oui, alors ça c'est très très drôle parce qu'en fait souvent quand on crée un podcast, on a l'impression que quand on appuie sur le bouton publier, la mise en ligne du coup du premier épisode, on se dit que ça y est, le monde entier va pouvoir écouter notre podcast. Mais en fait pas du tout. En fait, il faut dire au monde entier que notre podcast existe. Donc du coup, il y a quand même toute une partie de communication à faire autour du podcast. Le podcast reste un outil de communication, mais en fait, il faut quand même dire justement que ça existe et du coup développer en fait tout un système d'outils de com autour. Donc ça va être un compte Instagram, un compte Facebook, un profil LinkedIn, voilà, en fonction en tout cas de ses auditeurs, toujours pareil, strate de com. Si nos auditeurs sont plus sur Insta ou plus sur Facebook, bah, on va choisir tel ou tel support en fonction de qui est notre cible en tout cas d'audience.
Et toi, en l'occurrence, c'est plus Insta, LinkedIn, Facebook?
La cible des parents d'ados, c'est un grand mystère. Oui et non, hein. C'est que bah, déjà Facebook c'est plutôt vieillissant, on va dire comme support. Mais le truc c'est qu'il y a quand même tout le temps du monde dessus. En fait, on a tous en tout cas pas pour la nouvelle génération, mais disons globalement pour nous tous, on a tous un compte Facebook et même si on l'utilise pas, en tout cas il est là. Et ça, c'est un moyen de rester en contact avec notre famille, avec des amis, de retrouver des fois des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc en fait, c'est quand même important d'être présent dessus parce que d'une manière ou d'une autre, on peut quand même toucher une population qui va être que sur Facebook et pas forcément sur Insta. Mais je suis aussi sur Instagram tout simplement parce que moi, c'est un support que j'utilise plus. Et du coup, ça va être plus sympa pour moi en tout cas de communiquer. Et en fait, la cible de parents d'ados. Eh ben, le truc qui se passe, c'est qu'ils ont un peu récupéré leur liberté, parce que du coup, maintenant, leurs enfants sont plus autonomes. Et donc, c'est un peu la cible qu'on a un peu du mal à savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe en fait dans leur vie. Donc, ils sont un peu partout et nulle part à la fois. Donc, il faut essayer de les capter. Et en fait, comme pour le podcast, moi, je suis partie du principe qu'il fallait que l'information soit accessible aux parents, qu'importe leur façon de consommer du contenu. Donc, bah, du coup, le but, c'est d'être accessible partout.
Toi, tu as fait des études de com?
Oui, j'ai un master 2 en marketing digital et médias sociaux, ce qui m'a bien aidé, en tout cas sur la stratégie de communication du podcast, pour certains choix, comme par exemple le choix du nom du podcast, qui est Parentalité et adolescence, c'est quand même des mots génériques et le nom de domaine était disponible. Donc pour ceux à qui ça parle, moi j'ai trouvé ça assez choquant, en me disant qu'il y avait un vrai vide abyssal sur cette thématique pour que personne n'ait choisi de choisir ce nom de domaine, quoi. Donc merci à ceux qui ne l'ont pas fait, parce que je suis très contente de l'avoir.
Donc là, c'est la partie podcast. C'est quoi qui te plaît le plus, toi, dans cette partie? C'est la partie recherche d'idées, interview, montage?
Alors, la partie la plus sympa dans le podcast, bon, franchement, c'est les interviews, parce que en fait, toute la partie avant, ça va être beaucoup de la recherche. Donc, des fois, il y a des sujets où on se dit, mais c'est super intéressant. Et en fait, on trouve pas grand monde en fait qui va être sur ce sujet. Du coup, il y a un côté ultra frustrant. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps et je me suis dit, mais comment c'est possible en fait de pas trouver des gens qui sont spécialisés sur le sujet? Et le truc qui se passe aussi, c'est que vu que chaque mois je change de thématique, il y a aussi le temps de creuser en fait cette thématique, parce que des fois t'es pas forcément dans cet univers-là. Donc en fait, il faut le découvrir. Donc une fois que t'arrives, ça m'est arrivé deux trois fois de me casser la tête vraiment à trouver les bonnes personnes pour un sujet. Et au moment où le podcast sorte, là d'un coup, il y a une flopée de gens qui débarquent de je ne sais où en me disant hey, moi aussi je peux en parler et tout. Et moi je me dis, mais ils étaient où ces gens en fait? C'est pas possible. Donc bon, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça aussi comme des capsules et de se dire que potentiellement on peut réalimenter la machine en fonction des rencontres, parce que forcément je suis la seule en fait, je suis toute seule sur le podcast, donc tout dépend de ce que je trouve en fait. Donc forcément c'est beaucoup pour une personne de se dire je vais forcément trouver la bonne personne quoi qu'il arrive. Donc je fais un max de recherche, mais il y a aussi une part de magie, un peu de la vie, des rencontres qui s'opèrent. Donc oui, en tout cas la partie que je préfère, ça va être plutôt les interviews. La partie que j'aime moins, franchement les montages, hein, ça, il n'y a rien de fun à faire des montages. Donc j'espère qu'un jour je pourrai déléguer cette partie, parce que vraiment c'est pas l'éclate, quoi.
Et alors, pour trouver les gens que tu vas interviewer, il y a les rencontres fortuites, mais est-ce que tu passes des petites annonces sur LinkedIn ou Insta avec je cherche actuellement des parents qui ont un enfant anorexique ou autre?
Alors, c'est là où la magie de Facebook est chouette, c'est qu'on a quand même un truc qui s'appelle les groupes. Et là, il y a des groupes sur plein de thématiques. Donc, ça m'est arrivé justement sur des thématiques très spécifiques de trouver des groupes spécifiques en allant justement à l'intérieur en disant, je veux faire un épisode sur ça, j'ai besoin de que quelqu'un témoigne. Du coup, voilà, ça m'a aidé en tout cas pour trouver les témoignages de parents. Et ensuite, pour trouver les invités du podcast, ça va être plutôt effectivement via LinkedIn, si j'ai pas la personne dans mon réseau, ou j'ai quelqu'un dans mon réseau qui va me recommander quelqu'un d'autre. Ça arrive régulièrement. Mais sinon, en fait, LinkedIn est très bien fait, en tout cas pour les recherches. On peut vraiment filtrer hyper spécifiquement des choses et du coup trouver notre pépite sur LinkedIn.
Donc là maintenant, et qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur le podcast? Tu fais des conférences, tu fais des formations?
Alors non, je fais pas encore de conférences, même si je pense que ça me plairait beaucoup. Mais pour l'instant non, c'est pas le cas. En revanche, j'ai créé il y a un an de ça une association donc qui porte le même nom que le podcast, et que je suis en train justement de développer via le programme d'accompagnement des audacieuses de la ruche Bordeaux, qui va m'aider justement à structurer pendant 9 mois un petit peu l'offre. Comment on va fonctionner un peu l'association, vers qui on va. Alors, bien évidemment, c'est quand même très lié au podcast, donc ça va avoir pour public les parents d'ados, et dans un deuxième temps, les professionnels qui travaillent sur des sujets autour de l'adolescence. Alors, au début, quand je l'ai créé, c'était vraiment pour rassembler d'un côté, les professionnels qui travaillaient du coup sur des sujets liés à l'adolescence pour créer des synergies entre eux, parce que tout simplement en échangeant avec les professionnels durant les interviews, je me rendais compte qu'en fait, suivant le métier, ça pouvait vraiment se compléter par un autre métier. Donc je me suis dit, mais c'est dommage en fait, pourquoi ils ne se rencontrent pas et puis ils pourraient vraiment créer des projets ensemble. Donc c'était ça dans un premier temps. Le deuxième objectif avec eux, ça a été aussi de me rendre compte qu'il y en avait plein, par exemple, qui faisaient des reconversions professionnelles et du coup, qui n'étaient pas forcément à l'aise avec les outils de communication. Ce qui est dommage parce que finalement, ils avaient très envie de partager leur savoir, leur connaissance, d'aider, mais par le fait de manque de compétences en termes de communication, les gens pouvaient pas les trouver, quoi. Et donc c'est là où toute la magie de la com a un intérêt, c'est de dire coucou, je suis là et j'ai envie de faire quelque chose. Et donc, du coup, il y avait un problème avec ça. Donc, en fait, pendant les 6 premiers mois de la vie de l'association, du coup, j'organisais une fois par mois des rencontres entre pros, donc pour qu'ils se rencontrent, et notamment un atelier avec une social manager, justement, pour faire un focus sur les réseaux sociaux et à quoi ça sert et comment ça fonctionne et tout ça. Donc, tout le monde a pu poser ses questions. C'était hyper riche. Je pense que tout le monde était très content parce qu'ils avaient vraiment plein de questions à poser. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis, du coup, bah, je me suis un peu épuisée à me dire, bon, bah, finalement, c'est quand même de l'événementiel tous les mois. Donc, moi, au début, je suis arrivée avec mes grandes idées en me disant, mais ça va être super, en fait, on peut vraiment organiser ça, j'ouvre une petite voie, et puis tout le monde va s'embarquer, et puis ça va être super cool. Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Du coup, au bout de 6 mois, je me suis dit, alors, c'est vachement sympa, tout ça, j'adore aider ces professionnels et tout, tout le monde est hyper content. Par contre, moi, je suis complètement claquée, quoi. Donc, j'ai fait une petite pause avec l'asso, parce qu'en fait, il y avait 3 mois plus tard, les 3 ans du podcast, et donc j'ai organisé un événement pour rassembler tous les pros du réseau, les invités que j'ai reçus sur le podcast et les auditeurs. Et du coup, ça a été un super moment parce que finalement, en une soirée, rassembler autant de monde sur une thématique commune, bah, j'ai vu en version réelle et accélérée bah, justement la magie un peu que j'avais en tête de voir les gens bah, se connecter hyper facilement, créer des liens. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des projets ensemble via cette soirée, donc c'est hyper chouette. Et voilà, et puis donc, dans un deuxième temps avec l'asso, c'était que ces professionnels puissent proposer des ateliers ou des conférences sur des problématiques spécifiques auprès des parents d'adolescents.
Et cet événement, tu l'avais fait où ?
Alors, c'est un événement que j'avais organisé dans un hôtel, à l'hôtel du Lierre, qui est à côté de Gambetta, donc rue Guéry, qui est très beau. Et du coup, voilà, j'aimais beaucoup l'environnement très cocooning, la déco était très très chouette. Il y a un espace en fait à l'extérieur avec vraiment du lierre et tout, enfin, c'est vraiment très sympa comme lieu. Donc voilà, le lieu est important, bien évidemment. Si tu choisis une salle toute blanche qui n'a pas d'âme, bon bah forcément, l'ambiance où il va falloir mettre de la déco en tout cas, parce que du coup, c'est pas très fun quoi.
Donc après cette rencontre, t'as pas pu te constituer t'as pas pu regrouper dans ton association des gens qui t'auraient aidé à la redémarrer en te fatiguant un peu moins ?
Bah en fait, c'est un peu compliqué dans le sens où... alors moi, j'ai toujours été bénévole. Mais alors, passer de l'autre côté de la barrière, c'est vraiment pas du tout le même boulot. Et en fait, ouais, c'est déjà... Si c'est pas clair vraiment dans ta tête, la structure de l'asso, c'est pas évident d'embarquer les gens avec toi, quoi. Et en fait, ça fait très longtemps que je suis toute seule. Donc j'ai l'habitude un peu de tracer mon chemin et de me dire, bon, bah, on va prendre telle direction et tac, 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 ça va se passer comme ça. Et là, c'est aussi d'apprendre finalement à lâcher prise en se disant, bah ok, je donne une direction, mais potentiellement, les gens qui vont rejoindre l'aventure vont apporter aussi leur pierre à l'édifice et ça va peut-être pas aller dans la direction que j'avais prévue de base, quoi. Donc c'est un peu toute la magie de rentrer dans ce programme d'accompagnement de la ruche en se disant que je vais devoir structurer un peu mes idées et potentiellement, du coup, bah, m'attendre à regrouper des gens qui vont avoir aussi leur mot à dire. Et du coup, bah, jouer un peu avec ça, sachant que bon, bah, aujourd'hui, j'ai décidé que c'était une asso, parce que ça permet de tester plein de choses, mais potentiellement, peut-être qu'au bout des 9 mois, ça sera peut-être plus du tout une asso, ou plus du tout ce que j'avais prévu à la base. Donc vraiment, je suis rentrée dans ce programme en me disant, j'avais une idée, maintenant, je vois ça comme une opportunité de créer autre chose, et ça doit être autre chose, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, oui, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un peu la magie de tout ça, c'est que c'est un espèce d'accélérateur de développement personnel, donc on apprend toujours.
Et donc là, dans cette association, le but, c'est donc de regrouper des professionnels qui pourraient être tous complémentaires les uns aux autres pour le bien-être des ados, mais est-ce qu'il y aura aussi des parents ?
Alors, ce qui est rigolo, justement, dans les professionnels en général que j'interview sur le podcast, bah, ils ont entre 40, 45 ans, 50 ans. Et en fait, souvent, ils sont aussi parents d'ados. Donc finalement, ça fait coup double, quoi. C'est à la fois la profession et en même temps le besoin du parent. Donc voilà, et puis comme on dit souvent, les cordonniers sont souvent les... C'est quoi déjà l'expression ?
Les plus mal chaussés.
Voilà. Donc forcément, bah, des fois, même s'ils sont psychologues ou thérapeutes, bah, ça ne veut pas forcément dire que ça se passe bien chez eux. Parce que bah, forcément, tu as un peu ce prisme de pro qui est un peu compliqué, plus l'émotionnel du parent. Donc en fait, tout ça, c'est un peu compliqué à gérer, quoi.
Donc là, le but de cette association, ce serait au niveau national, apporter, ou juste régional, apporter des solutions à tous les parents qui ont des problèmes. Donc vous allez créer un site, hein, je suppose, un forum, participer à des émissions radio ou carrément lancer une radio. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, aujourd'hui, tes idées, sachant qu'on a bien compris que ça se trouve, dans 6 mois, ça sera autre chose. Mais toi, dans ton idéal, ça serait quoi ?
Bah, si on arrive au niveau national, je serais très très contente. Pour l'instant, on l'a plutôt pensé sur Bordeaux, parce que j'avais ce besoin de connexion humaine, et je trouvais ça vraiment plus sympa, en fait, que les gens se rencontrent en physique. Maintenant, c'est aussi une question que je me suis posée en me disant, est-ce que ça serait pas plus simple de faire tout en visio ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi quand j'ai créé l'asso, c'est que j'avais des professionnels, du coup, qui étaient intéressés pour entrer dans l'asso, mais qui n'étaient pas à Bordeaux. Donc c'était de se dire, est-ce que finalement faire tout en visio, ça pourrait pas être sympa, et de temps en temps le faire en physique à Bordeaux, est-ce que ça serait pas mieux? Donc je pense qu'il va tout simplement falloir que je refasse cette petite étude de marché et aller questionner justement les professionnels pour comprendre leurs besoins et pouvoir y répondre le mieux possible, quoi. Donc ça, c'est la partie sur les pros. Donc voilà, ça serait vraiment créer une sorte de petit réseau, en fait, de pros. Mais en fait, c'est déjà un peu ce qui se passe, c'est qu'en créant le podcast, je rassemble plein de professionnels qui sont sur ce sujet. Et là, c'est le fait juste simplement de les mettre en relation et de créer potentiellement d'autres projets avec eux. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que ben, c'est des rencontres humaines. Donc avec certaines personnes, tu te dis « Ah, mais en fait, on pourrait faire bien plus. Mais si on organisait ça, mais si, machin. » Donc en fait, c'est aussi de créer une asso où à l'intérieur, on pourrait porter d'autres projets qui ne seraient pas forcément des projets que moi, je porte. Et justement, de pouvoir proposer en fait à des professionnels ou des parents d'ados, peu importe, de dire bah voilà, nous on a vu telle problématique, on a envie de lancer ça, est-ce qu'on pourrait le faire au sein de l'association ? Et alors, en off, actuellement, il y a un truc qui est en train de se tisser, parce que justement, une maman d'ado m'a contactée cet été sur une problématique très spécifique, et du coup, ça m'a vraiment touchée, son témoignage, et du coup, je lui ai proposé de l'aider, en fait, à porter ce projet, parce que du coup, bah, c'est lié à la parentalité d'ado, donc, enfin, à une maman d'ado, donc en fait, ça va totalement... dans le contexte de l'association. Bien évidemment, si elle faisait un atelier de peinture, ça n'aurait pas marché. Hein. Mais du coup, là, ça fonctionne. Donc en fait, on va créer ensemble un groupe de parole pour les parents d'ados qui ont vécu avec leurs ados, par exemple, tout ce qui va être tentative de suicide, scarification, anorexie, donc des sujets assez lourds, en fait, du mal-être mental, en fait, du mal-être psychologique, du mal-être physique, enfin, voilà, un peu tout ce qui est lié un petit peu au mal-être, mais sur des sujets assez, assez douloureux. Et en fait, cette maman est à Paris et moi, je suis à Bordeaux, donc je lui ai dit, bah, écoute, je pense que le mieux, c'est de le faire en digital, pour le coup, parce qu'en fait, là, le but, c'est vraiment de rassembler des parents qui sont isolés, qui potentiellement ont... un peu cette culpabilité ou du vraiment peut-être pas l'envie, en fait, de se déplacer physiquement dans un lieu avec d'autres parents pour parler d'un truc qui a été hyper douloureux dans leur vie, quoi. Donc on s'est dit que ça pouvait être chouette de le faire justement dans un premier temps en visio et de construire ça avec eux et de voir un petit peu ce qui peut se passer, donc bien évidemment avec des professionnels, parce que là on touche quand même à un sujet qui est assez compliqué. Donc voilà, c'est typiquement le genre de projet, en fait, que peut porter l'association, même si pour moi elle est en pause sur ce que je voulais faire. Bah, c'est aussi de l'occasion de pouvoir aider une maman à réaliser un projet qui lui tient à cœur, quoi.
Bah, de toute façon, là, suite au confinement, on a entendu beaucoup parler à la radio de la santé mentale des enfants. Mais alors, est-ce que ça ne peut pas devenir quelque chose, entre guillemets, d'utilité publique et être reconnu par l'État et porté aussi avec de l'aide des conseils, le conseil général, la région, les choses comme ça?
Ouais. Bah, ça serait super, hein. Franchement, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Après, là, c'est une première, donc on va... créer ça et puis on verra où ça va, si les gens se saisissent aussi de cet outil ou si on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, il y a aussi une petite part de test, hein, et de magie de la vie où des fois tu as des idées et tu te dis ok, let's go, tentons un truc. Là pour le coup, il y a quand même un vrai besoin parce que c'est quelque chose qu'a vécu cette maman. Donc voilà, après c'est de voir combien de personnes finalement on rassemble autour de ce projet. Est-ce que du coup, enfin, quels sont les besoins qu'on va avoir aussi pour faire en sorte que ce projet fonctionne bien. Parce que alors, le but, c'est quand même de créer une bulle de sécurité, en fait, d'être hyper safe pour ces parents qui vont partager quand même quelque chose de douloureux sur un sujet quand même qui est très dur. Donc voilà, le but, c'est aussi d'être bien encadré, de créer vraiment une atmosphère un peu bienveillante et de voir ce qui s'y passe, quoi. Et ce qu'ont besoin aussi ses parents, parce que ça pourrait très bien se dire, bon, bah, dans 6 mois, on va organiser un week-end ressource ou un peu à la manière des retraites de yoga, en fait, de se dire, bon, on rassemble tous ses parents et on passe un moment voilà, à se balader en forêt, à faire du yoga, enfin, peu importe. Donc, ça peut aussi se développer sur d'autres projets. Mais bon, dans tous les cas, il faut commencer par un morceau, quoi. Donc, ça sera du digital dans un premier temps.
Et est-ce que tu t'es rapproché d'organismes comme l'Observatoire pour les enfants qui ont eu le cancer, etc. Est-ce que tu t'es rapproché de structures comme ça pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils s'étaient mis en place, quelles subventions ils ont, comment ils s'organisent pour t'aider?
Alors du coup, c'est aussi toute la magie justement d'être rentrée dans le programme d'accompagnement de la ruche. C'est vraiment de pouvoir justement travailler sur ces points, d'aller chercher les financiers, de savoir comment structurer vraiment l'asso et de comprendre un peu comment finalement une association fonctionne à plusieurs niveaux. Donc non, pour l'instant, je suis pas forcément allée chercher, en tout cas, aller démarcher d'autres structures pour en tout cas financer cet asso. En revanche, oui, j'ai commencé à un petit peu regarder ce qui se passait déjà chez d'autres associations, échanger avec les fondateurs et regarder un petit peu comment tout ça peut fonctionner. Mais je suis au tout début.
Alors là, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de la ruche, enfin que tu fais allusion à la ruche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la ruche?
Alors la ruche, alors j'ai pas préparé un pitch pour parler de la ruche, donc j'essaie de le faire le mieux possible. Donc la ruche, c'est à la fois un coworking et également des programmes d'accompagnement pour plusieurs niveaux en fait d'avancement d'un projet. Donc je crois qu'il y a 3 programmes. Il y a Booster. Il y en a un au milieu, je crois, et il y a les Audacieuses, qui, là-bas, je crois que c'était leur tout premier programme qu'ils ont lancé. Et donc, les Audacieuses, pour le coup, ça va être que sur des projets portés par des femmes. Mais, par exemple, il peut y avoir une femme et un homme qui ont créé la société, c'est juste que c'est la femme qui va, du coup, pouvoir suivre le programme. Et donc, ça, le programme des Audacieuses, c'est un programme de 9 mois. D'accompagnement. Donc on a eu une présélection par la ruche. Dans un premier temps, on a dû remplir un dossier, ils ont fait une première sélection. On a eu 2 jours de bootcamp, donc 2 jours pour travailler un peu en mode accéléré sur plein de niveaux du projet. Et une semaine après, on avait un pitch à proposer du coup devant un jury de à peu près 10 personnes qui étaient des partenaires de la ruche. Et des anciennes audacieuses aussi. Et donc du coup, c'était un pitch de 3 minutes avec 10 minutes de questions. Et du coup, j'ai été lauréate du programme, donc qui a commencé là il y a deux semaines, je crois. Et voilà, donc très très contente d'être rentrée dans cette communauté. Donc c'est aussi la ruche, ça va être lié beaucoup à tout ce qui va être de l'écologie, le social. Voilà, c'est des belles valeurs aussi en termes de projet. Donc ça va pas forcément être pour des personnes qui vont faire quelque chose dans la tech, mais qui a pas de lien en tout cas avec le social. Ça peut être une appli, mais qui va être liée à quelque chose voilà de l'écologie ou du social. Voilà, si c'est pour faire un truc au 440, ça a pas marché, quoi.
Et la ruche, il y a combien? Ça fonctionne un peu comme une coopérative, c'est-à-dire que on est accompagné, par exemple, tous les mardis par telle personne pour la comptabilité, tous les machins pour une autre. Comment ça fonctionne au niveau de l'accompagnement?
Alors, moi, dans ce programme-là, donc il y a un planning avec des sessions collectives. Donc là, on a eu 2 jours de séminaire. Complet. Donc le prochain, après on a beaucoup de visio, parce qu'en fait le but c'était pas de favoriser que les personnes qui habitent en centre-ville, mais ça touche vraiment toute la Nouvelle-Aquitaine, et donc du coup pour celles par exemple, je sais pas, qui habitent à Créon ou Coutras ou peu importe, pour leur éviter de venir tout le temps physiquement, il y a beaucoup d'ateliers du coup qui sont en visio. Et voilà, et ensuite dans le programme des Audacieuses, donc c'est pas tous les jours, c'est pas des jours précis, donc il y a un planning qui nous est donné un petit peu à l'avance. Mais du coup, il faut quand même être assez disponible, en tout cas, pour pouvoir y participer. On est 14 au total, et il y a 5 coups de cœur du jury, donc du coup, dont je fais partie aussi. Et du coup, on a l'accompagnement individuel à côté. Donc, en plus, en fait, de l'accompagnement collectif, nous, on a des rendez-vous avec une personne de la ruche, justement, pour avoir... comme on sent les besoins qu'on a plus spécifiques. Et du coup, on peut avoir des demandes particulières. Par exemple, bah, à un moment donné, il faut absolument qu'on rencontre un expert comptable parce que là, ça va pas du tout. Voilà, ils nous mettent en relation. Mais même dans le programme collectif, en fait, si elles ont des besoins particuliers, elles peuvent aussi quand même être mises en relation. C'est pas du tout un truc vraiment très séparé. Mais disons qu'on a un suivi plus personnel qui est plutôt chouette, en fait, hein, clairement.
Et là, c'est donc sur 9 mois. Et eux, ça fait combien de temps qu'ils proposent ce type d'accompagnement ?
Je crois qu'il faudrait que je fasse une petite recherche Google pour te donner exactement la date de création de la ruche. Pourtant, on nous l'a présenté 2-3 fois quand même hein, au séminaire, mais je ne saurais pas te dire la date, sinon je vais dire une grosse bêtise.
Oui, enfin, on peut supposer que s'ils font un accompagnement de 9 mois, c'est que depuis, on va dire, 10 ans ou 12 ans, ils ont estimé que c'était la période pour qu'un projet puisse aboutir vraiment.
Complètement, complètement. Bah, 9 mois de gestation, c'est pas pour rien, je pense. Hein.
Toi donc, on a vu ta casquette de podcasteuse, on a parlé de tes projets d'association qui s'appellera Parentalité et Adolescence. Est-ce que tu as d'autres talents cachés ?
Ben j'espère. On ne se définit pas que par son métier. Oui, alors, tu vois, on en parlait tout à l'heure, potentiellement, je vais me remettre au tricot. Mais plus sérieusement, oui, à côté de ça, je donne aussi des cours auprès d'étudiants. Alors, principalement en école de communication, parce que du coup, je trouvais intéressant, issu, moi, du monde de la com, d'aller... pas prêcher la bonne parole, mais du coup d'expliquer déjà comment on crée un podcast et de parler un petit peu de tout ça, parce qu'effectivement ça a été le truc un peu tendance du moment, donc c'était chouette de pouvoir leur proposer. J'aime beaucoup le côté transmission et du coup c'était intéressant d'avoir le retour des étudiants. Enfin moi je trouve ça hyper riche de pouvoir échanger avec eux, de voir leurs projets, voilà, ils ont toujours plein d'idées, même eux ils découvrent aussi d'autres astuces pour créer un podcast ou qui ont découvert, je sais pas, un logiciel. Alors il y a eu beaucoup le logiciel lié à l'IA, mais bon, du coup, je leur ai quand même dit « Ok, c'est super, mais c'est quand même bien de savoir monter un épisode avant de demander à l'IA de le faire pour soi, quoi. » Principalement. Mais voilà, du coup, un petit peu sur le côté, en tout cas, de pro que je peux faire, à part le tricot.
Alors moi, j'avais vu sur LinkedIn passer pas mal de choses sur des rencontres entre podcasteurs à Bordeaux, et d'ailleurs, j'avais voulu m'y inscrire et ça tombait un jour où... j'étais pas à dispo et j'ai bien regretté après. Aujourd'hui, vous êtes combien de podcasteurs qui avaient des podcasts réguliers sur Bordeaux?
Bah, c'est une bonne question. On n'a pas encore un annuaire, si on pourrait dire ça comme ça, de podcasteurs. En tout cas, on a fait une soirée justement de rencontre mercredi de cette semaine-là. Donc hier soir. On est jeudi, donc oui, c'était hier soir. Ce qui est intéressant et ce qu'on s'est dit justement avec les autres personnes avec qui j'organise ça, c'était que ça changeait de personne par rapport à la fois précédente. Et du coup, c'était intéressant aussi de voir de nouvelles personnes arriver. Donc en fait, je pense que on est quand même pas mal. Hein. Après, cette année, on a organisé le premier événement à Bordeaux qui s'appelle Bordeaux Faites le podcast et qui va avoir lieu le 5 et 6 avril prochain, enfin en 2024 du coup. Et justement, dans le but de rassembler, d'une part, il y aura une journée plutôt dédiée aux professionnels et le lendemain du coup plutôt dédié au grand public. Donc là ça va être très simple, ça va être comment créer un podcast, qu'est-ce que c'est un podcast, poser un peu toutes ces questions sur la création de podcast, la monétisation d'un podcast, plein de choses. Et le côté pro, on va peut-être pouvoir aborder d'autres sujets un peu plus pointus sur typiquement comment on protège le nom de son podcast, comment on peut protéger un podcast. Tu peux acheter, c'est même conseillé d'acheter le nom de domaine de ton podcast si tu veux faire un site. En revanche, tu peux aussi déposer la marque à l'INPI. Tout simplement pour. Parce qu'en fait, au début, quand tu crées ton podcast, tu te dis, bon, bah, je fais mon podcast, puis tout va bien, voilà. Et puis en fait, ça peut devenir vraiment le podcast de ta boîte, selon ce que tu fais. Donc, il y a un intérêt aussi à le protéger, parce que t'es pas à l'abri que quelqu'un d'autre qui n'ait pas forcément vu ton podcast passer crée un podcast avec un nom qui soit assez proche, quoi. Donc là, c'est un peu dommage parce que potentiellement, toi, ça fait 4 ans que t'es là, t'as bossé ton référencement et l'autre personne débarque un peu la fleur au fusil en se disant « Hey, cool, je vais peut-être pouvoir bénéficier de son référencement, ça va être hyper cool. » Bon, c'est pas très sympa pour toi, quoi.
Sarah, on a parlé de ton podcast, de ton côté professeur de podcast dans les écoles de com, de l'association que tu étais en train de monter, plus tout ce que tu fais avec La Ruche. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire?
Eh bien, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure podcast, allez-y parce que c'est incroyable. Par contre, c'est quand même beaucoup de boulot, donc il faut en avoir quand même conscience, bien choisir, déjà réfléchir à son pourquoi. Pourquoi on crée un podcast, c'est hyper important. Une fois qu'on a créé son pourquoi, enfin qu'on sait pourquoi on le crée, ça va être de construire un petit peu tout son concept de podcast et ensuite de choisir son matériel et pas l'inverse. Parce que du coup, ça permet de faire des choix plutôt judicieux, en tout cas en termes de matériel et même de dépenses. Donc vaut mieux le faire dans l'ordre, un petit peu comme une stratégie de communication finalement. Et une fois qu'on sait où on va, on peut aller chercher les outils dont on a besoin pour se lancer. Mais en tout cas, c'est une super aventure.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de t'avoir connue via LinkedIn. Et puis, bonne continuation pour parentalité et adolescence.
Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçue dans tes locaux. Et puis, du coup, si vous vous demandez où on écoute un podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Donc c'est tout ce qui va être Deezer, Apple Podcast, Spotify. Mais moi, le podcast est également disponible en vidéo, donc vous pouvez le retrouver également sur YouTube. Donc, qu'importe votre façon de consommer du contenu, vous pouvez trouver l'information.